Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 6 octobre, Sophie Pétronin sur le point de retrouver la liberté. La dernière otage française au Mali serait en cours de transfert après près de 4 ans de captivité aux mains d'un groupe lié à Al-Qaïda. Nous serons en ligne dans un instant avec son neveu. 5000 personnes toujours privées d'électricité dans ces vallées dévastées des Alpes-Maritimes. Les secours rétablissent peu à peu les réseaux électriques et téléphoniques. La sécurité civile cherche encore des disparus. Dans RTL Midi aussi, l'hémicycle de l'Assemblée nationale est comme un amphi. La jauge est fixée à 50% pour les députés. Le mot séparatisme ne figure pas dans l'intitulé du futur projet de loi destiné à lutter contre l'islamisme radical. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Nous verrons si c'est un recul ou un ajustement. Nous reviendrons sur le retour très scénarisé de Donald Trump à la Maison-Blanche qui retire ostensiblement son masque. Polluer ou conduire, il faut choisir correctement votre véhicule. Le Fonds mondial pour la nature WWF s'en prend au SUV trop lourd, trop polluant et pourtant il représente en septembre, 40% du marché. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Vous n'avez pas oublié votre parapluie ?
Ah non, puis il vaut mieux pas. Hein. Puis j'espère que je ne suis pas le seul à ne pas l'avoir oublié, sinon on va être tous un peu mouillés. Parce que quand je regarde les images à la fois satellite et radar, bah, y a des nuages et de la pluie quasiment partout en ce moment. Alors sauf tout près de la Méditerranée, ça c'est une bonne nouvelle, hein, notamment les Alpes-Maritimes, devraient rester à l'écart de cette circulation pluvieuse qui va s'intensifier d'ailleurs dans la moitié sud, sauf sur la côte d'Azur. Ça donnera de la neige dans les Alpes à partir de 2000 mètres. Et puis dans la moitié nord, allez, peut-être une trouée par miracle de temps en temps, mais surtout beaucoup de nuages, de la pluie et tout ça poussé par un vent fort dans toutes les régions, 60 à 70 km/h au moins. Les températures quand même en légère hausse, ouais, à peine 14 à 16 degrés dans la moitié nord et 16 à 22 dans le sud.
C'est possible. La question du jour, les aidants sont-ils suffisamment soutenus? Vous dites oui à 11% seulement. Il y a une écrasante majorité de non, 80%. On attend vos témoignages qui sont souvent poignants au 3210. Bonjour Pascal.
Bonjour Christelle, effectivement, et vous pourrez échanger avec Philippe Croison, qui est cet ancien athlète handisport qui est amputé des quatre membres et qui pourra témoigner avec vous. Et vous pourrez l'interroger. Autre sujet du jour, le projet de loi destiné à lutter contre le séparatisme qui devrait changer de nom. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin l'a annoncé ce matin. Il s'appellera projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains. Donc le mot séparatisme a disparu. Est-ce qu'il faut y voir un recul? À l'heure de l'écologie, effectivement, le SUV, ça c'est un excellent sujet dont vous avez parlé. Est-ce que vous êtes choqué également par la mise en scène de Donald Trump? Bon sujet encore. Nos églises sont-elles en danger? Vous pourrez intervenir. Et puis plus de 7 seniors sur 10, seniors c'est au-dessus de 60 ans, ont une vie sexuelle épanouie. Eh bien, 72% disent avoir une vie sexuelle épanouie. Là aussi, venez témoigner, si j'ose dire, entre 14h et entre 13h et 14h30. Ça ne concerne personne ici, bien sûr.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Sophie Pétronin devrait retrouver la liberté dans les heures qui viennent. L'information n'est pas encore officialisée par le ministère des Affaires étrangères, mais la dernière otage française serait en cours de transfert au Mali. Cette femme de 75 ans avait été enlevée il y a près de 4 ans dans ce pays où elle se consacrait aux enfants depuis des années, Pierre-Julien.
Oui, elle devrait être remise dans la région de Tessalit à des représentants maliens, mais on peut penser que des membres des services secrets français ne seront pas loin, chaque parti voulant à tout prix vérifier s'il n'y a pas un possible piège. Sophie Pétronin s'était installée à Gao, au cœur du Nord-Mali, en 2001. Elle y avait créé une fondation d'aide aux enfants. Cette humanitaire échappe de peu à une première tentative d'enlèvement en 2012. Après avoir regagné la France, elle repart l'année suivante, bien décidée à poursuivre son œuvre. Mais le 24 décembre 2016, elle a moins de chance et est capturée à Gao par des éléments du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Il faut attendre juillet 2017 pour avoir de ses nouvelles dans une vidéo avec à ses côtés 5 otages. D'autres vidéos en très petit nombre vont se succéder. La dernière la montrant très amaigrie, fatiguée, remonte à la mi-juin 2018. Un message suivra en novembre. Très inquiet, son fils Sébastien s'adressera par le biais de RTL à Emmanuel Macron, seul selon lui à avoir le pouvoir de vie ou de mort sur sa mère, avant qu'en mars dernier, le Quai d'Orsay confirme qu'elle est vivante et qu'elle a pu recevoir des médicaments.
Alors Pierre, il y avait un signe avant-coureur qui était cette libération massive d'une centaine de djihadistes djihadistes au Mali ces dernières heures. On pense à une monnaie d'échange.
Oui, on peut toujours parler de versement de rançon, mais dans ce cas, il est évident que la libération de tous ces djihadistes a été déterminante. Et puis, le sort de Sophie Pétronin est aussi lié à Soumaïla Cissé, l'ancien leader de l'opposition au président Keïta, destitué par la junte, enlevé le 25 mars dans la région de Tombouctou. Le nouveau régime en place à Bamako s'est déclaré ouvert aux négociations. Ce serait alors une réponse victorieuse adressée à la communauté internationale qui avait condamné le coup d'État du 18 août.
Merci Pierre, et nous sommes en ligne avec le neveu de Sophie Pétronin, Lionel Granouillac. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous confirmez que votre tante est en cours de transfert ?
Alors écoutez, tous les indicateurs sont au vert aujourd'hui, mais tant que je n'aurai pas vu mon cousin Sébastien la prendre dans ses bras ou lui tenir la main, je vous avoue que j'aurai du mal à réaliser que sa libération est effective, parce que, comme vous le savez, par le passé, on a eu des échanges avec certains désagréments, on va dire, ou des désillusions. Mais on peut confirmer, et j'ai eu Sébastien tout à l'heure, il est en route pour Bamako.
Il est dans l'avion pour aller au Mali.
Voilà. Oui, tout à fait. On est pas loin du dénouement et que ça sent bon, comme il m'a dit. Donc effectivement, on est à la fois bouillonnant intérieurement, oui, mais on reste pondéré.
Les
émotions très à gérer.
Quand avez-vous été prévenu ?
Alors depuis hier, il y a eu. Sébastien a eu déjà des informations depuis hier, donc c'est pour ça qu'on a préparé son voyage pour Bamako. Et pour l'instant, on n'a aucune confirmation évidemment du Quai d'Orsay, hein. Ça c'est aussi ce qui nous invite à la prudence, mais c'est surtout des contacts qu'il a pu avoir sur place au travers de ses nombreuses actions qui ont permis de collecter
des infos. Le Quai d'Orsay ne vous a pas prévenu ? C'est pas eux qui vous ont prévenu du transfert éventuel de Sophie
Pétronin ? Non, nous sommes en contact avec le Quai d'Orsay depuis bientôt 4 ans, mais il n'y a pas eu l'information n'est pas venue de leur part.
Oui, on imagine leur extrême prudence de toute façon.
De toute façon, oui.
Est-ce que pour vous, il y a un lien clair avec la libération d'une centaine de djihadistes dont on parlait à l'instant ?
On peut bien imaginer que cette action n'est pas neutre dans un processus de négociation, hein. Parce que là, il s'agit quand même d'une transaction, hein, si c'est le cas. Nous, la famille, on est surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ce type
de
déroulé.
De cette manière, oui, bien sûr.
Ouais, de dénouement. Bon, sachant que le président Macron avait toujours revendiqué qu'il ne négocierait pas et que ça serait plutôt une action militaire qui pourrait nous apporter une issue favorable. Mais on peut pas, enfin, comme vos collègues et vous le dites, on peut bien imaginer que ça soit lié à cette libération. Ouais. Bon, sachant qu'évidemment, il y a aussi l'otage, enfin, l'autre otage qui est aussi important pour les Maliens.
Oui, qui est un homme politique malien d'envergure. Voilà. Dites-moi, Lionel Granouillac, est-ce que vous avez des nouvelles de la santé de votre tante ? Parce que dans la dernière vidéo, en 2018, elle était extrêmement affaiblie.
Non, on a. Alors, vous savez, les nouvelles depuis 2018, elles sont toujours à prendre avec des pincettes. Elles ne sont jamais confirmées, ou on n'a pas de preuves matérielles pour en juger. Les seuls éléments que l'on a, c'est qu'elle avait accès à des traitements. Et notre principale préoccupation, derrière la joie de la retrouver, ça va être évidemment dans quel état. Est-ce que sa santé va lui permettre de revenir vers nous? Voilà, donc ça fait partie des interrogations et de nos préoccupations du moment, quoi.
C'était son anniversaire hier?
Non, c'était le 7 juillet.
Ah bon,
bon en tout cas, elle a 75 ans, voilà.
Voilà, elle a 75 ans et on sait qu'elle a une santé fragile. Merci d'avoir accepté de témoigner, Lionel Granouillac, et on attend donc un dénouement heureux. On l'espère, on croise les doigts. Merci à vous. 5000 foyers sont toujours privés d'électricité dans les villages des Alpes-Maritimes, dévastés par les crues ce week-end. Même le réseau électrique en sous-sol a été touché par les différents glissements de terrain. Les secours apportent du ravitaillement, tentent de rétablir les liaisons, notamment téléphoniques. Et la sécurité civile continue de chercher des disparus. Valentin Boisset, vous avez suivi une équipe à Breil-sur-Roya qui examine des dizaines de carcasses de voitures submergées par la boue.
Le lieutenant Julien a enfilé sa combinaison rouge sous ses ordres. Cinq hommes s'apprêtent à plonger dans la Roya.
On se met dans la berge ici, avec le chef Latière, le caporal chef de Fray et le caporal Dany.
Les pieds dans l'eau, ils remontent le cours d'eau, puis vont s'arrêter à chaque carcasse de voiture.
La mission, là, c'est vraiment de lever le doute de Breil jusqu'à la frontière italienne. On s'attend à trouver un corps. On est équipé pour ça et ça fait partie du boulot.
Les deux trinômes se séparent ensuite, peu à peu, chacun armé de marqueurs.
Une bombe de peinture par trinôme. On marque bien les voitures qu'on reconnaît, comme ça au moins c'est clair. Toujours un œil sur les trinômes, toujours un œil entre nous.
Cette zone en direction de l'Italie n'a jamais été fouillée encore par les secours. En s'éloignant du village, la vallée se rétrécit et le courant devient plus fort. Le lieutenant, lui, s'arrête.
C'est dangereux. On peut très, très vite se faire mal. Ouais. L'eau, au phénomène de courant. Et ensuite, tout ce qui a été charrié par la rivière, les embâcles, des branches sous l'eau qu'on ne peut pas voir.
Impossible donc de les suivre plus longtemps.
Allez, on y va.
Selon le maire de la commune, 5 de ses administrés manquent à l'appel. La mission, elle, durera toute l'après-midi.
Reportage Valentin Boisset. RTL est solidaire avec le Secours Populaire pour venir en aide aux sinistrés des Alpes-Maritimes. Vous pouvez adresser vos dons sur le site secourspopulaire.fr ou par courrier en précisant fonds d'urgence. Sachez aussi que 7 loups noirs du Canada sont activement recherchés dans le secteur. Leur enclos a été détruit dans le parc animalier Alpha au-dessus de Nice. Certains ont été vus par des témoins entre Saint-Martin-Vésubie et le Boréon. On fait une pause et dans un instant, les nouvelles mesures anti-Covid à la fac.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Les bars fermés à partir d'aujourd'hui à Paris. Les restaurants devront respecter un protocole sanitaire plus strict. Les entreprises favoriser le télétravail. Et dans l'enseignement supérieur, qui représente un tiers des clusters, des foyers de contamination, il faut tout réorganiser juste après la rentrée. C'est le cas à Sciences Po Lille, Franck Hanson. On va faire des demi-groupes?
Des élèves vont donc devoir rester à la maison une semaine sur deux. Dans cette école, les consignes sont rappelées à tous les étages. Les salles de cours ont déjà une capacité limitée, mais il faut encore réaménager, explique le directeur de Sciences Po Lille, Pierre Mathieu.
Ça nous embête parce qu'il faut qu'on se réorganise. Donc ça veut dire que les personnes de la scolarité doivent tout remettre à plat et donc c'est compliqué. À titre personnel, parce que je ne suis pas totalement convaincu que c'est en passant les effectifs de 20 à 10 dans les classes qu'on va lutter contre le développement de la pandémie. Nous sommes des sanctuaires. Quand ils sont ici, même dans des salles un peu regroupées, aérés, avec du gel, etc., ils sont à mon avis beaucoup moins contaminants et contaminables que quand ils sont à l'extérieur, lâchés dans la nature.
Les étudiants, surtout les plus jeunes, craignent d'être plus isolés.
C'est compliqué, enfin, c'est déjà un peu dur de se mettre dedans avec la moitié des cours en visio, enfin, c'est plus difficile de se concentrer.
Ça fait un peu paniquer, quoi. Après, bon, bah, c'est nécessaire, il n'y a pas le choix, c'est tout le monde comme ça.
Le fait de finalement de plus tous être en amphi, c'est un peu frustrant. Du coup, on est obligé de se revoir le soir. On se regroupe quand même dans les bars ou dans des colocs. C'est pas pratique, quoi.
La rectrice nordiste a essayé d'être rassurante en appelant au bon sens. L'objectif est d'éviter les fermetures de campus.
Et cette jauge à 50% concerne aussi les députés à l'Assemblée nationale. L'hémicycle, finalement, c'est comme un amphi de fac. Pas plus d'un fauteuil sur deux en séance et en commission. C'est incitatif aujourd'hui. Ce sera obligatoire à partir de la semaine prochaine. En Ile-de-France, plus d'une personne en grande précarité sur deux a été infectée par le Covid-19. C'est le résultat d'une étude menée par Médecins Sans Frontières, en particulier auprès des réfugiés. Aux États-Unis, Donald Trump is back et il a mis en scène son retour. Une musique à la Rambo avec arrivée en hélico sur la Maison Blanche. Puis le président a posé son masque avant un discours offensif. Ne laissez pas le Covid prendre le contrôle sur vos vies. Une mise en scène très très marketée, Lionel Gendron.
Oui, alors il ne manque plus que le titre, hein, le retour du héros où Donald revient de la guerre. D'ailleurs, son médecin personnel l'a dit hier, hein, he's back, il est de retour. Et il n'a pas changé, Donald Trump a beau avoir été sérieusement atteint par le Covid, eh bien, il en fait un argument de campagne, extrait d'une vidéo postée juste après son arrivée à la Maison Blanche.
Don't let it dominate you.
Ne laissez pas ce virus prendre le dessus, n'en ayez pas peur. En tant que leader, j'ai dû faire face, je savais qu'il y avait du danger. Mais j'ai dirigé, sortez, soyez prudents, les vaccins vont arriver prochainement.
Alors, aucun appel à la prudence, hein. Plus de 210 000 morts à ce jour aux États-Unis, rappelons-le. Ce qui choque ici, ce n'est pas trop la mise en scène hollywoodienne, c'est plutôt sa pose pour les photographes. Arrivé au balcon, Donald Trump enlève son masque, un regard de défi pour dire « je ne suis pas prisonnier de ce virus, je l'ai vaincu ». Alors déjà, il n'a pas encore vaincu, il est toujours malade et tous les malades du Covid n'ont pas le droit au suivi médical dont il a bénéficié.
Et d'ailleurs, quand il retire son masque, Lionel, on voit qu'il respire assez mal. Il a la respiration assez courte.
Oui, comme un point de côté.
Exactement. Merci Lionel, en direct de New York, correspondant RTL à New York. Le mot séparatisme ne figure pas dans l'intitulé du projet de loi qui sera présenté en décembre en Conseil des ministres. C'est ce qu'a expliqué ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ajoutant que ce texte s'adressait à tous les cultes, contre les mouvements sectaires. Alors, dans son grand discours, Emmanuel Macron avait pourtant nommé les choses vendredi, et en particulier le séparatisme islamiste. Faut-il y voir un recul, William Galibert ?
Oh là là, alors surtout ne dites pas ça à Emmanuel Macron. Vous vous souvenez peut-être de son agacement la semaine dernière lorsqu'on lui a demandé s'il n'avait pas un peu de mal à dire les choses franchement, en l'occurrence qu'il s'agissait de lutter contre l'islamisme radical.
Là, très sincèrement, vous seriez malhonnête à dire que j'ai pas nommé les choses très clairement. Après, on peut décider de se faire collectivement des nœuds au cerveau et d'avoir de longs débats sur des choses inutiles, mais je crois que j'ai dit le problème.
Mais dans le nom du projet de loi, pas d'islamisme mentionné, donc pas non plus de séparatisme. Ce sera, je cite, la loi renforçant la laïcité et les principes républicains. Question de vocabulaire, mais aussi question de symbole politique. Pas de stigmatisation au moment où Gérald Darmanin prétend même qu'il s'agit d'une grande loi de gauche. Et puis, explique le ministère de l'Intérieur, le séparatisme principal est bien l'islamisme radical, mais les influences étrangères, les financements opaques, ça ne concerne pas seulement les musulmans. Le nom évolue, mais le contenu ne change pas et cette loi sera présentée au mois de décembre en Conseil des ministres avant un passage au Parlement début 2021.
Décryptage William Galibert. Dans un instant, faut-il en finir avec les SUV ? Ce sont nos voitures préférées du moment.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Votre SUV nuit gravement au climat. Le WWF, autrement dit le Fonds mondial pour la nature, s'en prend aux voitures les plus prisées du moment. Ces faux 4x4 dont les ventes ont été multipliées par 7 en 10 ans. Elles sont trop grosses, trop coûteuses et émettent beaucoup plus de CO2 qu'un véhicule classique. Le WWF demande au gouvernement de les taxer pour réorienter le marché. Ce serait une sorte de malus écologique sur mesure, Christophe Bourou.
Oui, en réalité, l'ONG reprend le sujet qui fait tant polémique et qui vient, pour le moment, d'être écarté par Bercy, taxer les véhicules les plus lourds, de plus d'une tonne 3, dans le viseur clairement les SUV, qui émettent 20% de CO2 de plus qu'une berline traditionnelle. Et pour bien montrer l'impact, l'ONG a fait une comparaison. La surconsommation imputable aux SUV est quasiment aussi importante que l'énergie dépensée chaque jour par tous les trains express régionaux qui circulent dans l'Hexagone. Plus lourd, donc plus gourmand à la pompe et donc plus cher, non seulement à l'achat mais aussi à l'usage, puisque selon cette étude, l'arrivée en masse des SUV sur le marché de l'occasion pourrait faire grimper le budget des ménages modestes de 13%, soit un surcoût de 408 euros par an. Autrement dit, si rien n'est fait, prévient le WWF, la France ne parviendra pas à tenir ses engagements climatiques pour 2030. Côté constructeur, on explique bien que justement, le parc est en train de verdir pour passer à l'électrique et l'hybride. Aujourd'hui, c'est une vente sur 10. Oui, mais fausse bonne idée d'avoir de gros modèles sur les routes, estiment les écologistes. Avec cet argument, l'empreinte carbone d'un SUV, même électrique, est sur l'ensemble du cycle de vie de 34% plus importante que celle des citadines électriques.
Et pour le porte-parole des constructeurs français, François Roudier, les propos de WWF sont datés.
Nous avons surtout vu une étude qui est basée sur des chiffres anciens de 2018. Alors en 2018, cette étude devait être très bien, mais en 2020, on voit que le nombre de SUV a augmenté et le CO2 a baissé dans le marché français. Donc en fait, cette étude est passée à côté du fait essentiel de l'automobile actuellement, c'est l'électrification. Grâce à l'électrification, la notion du poids des voitures n'a plus rien à voir. Donc c'est vraiment triste de voir comment on affole les gens sur un sujet qui est déjà réglé.
Et le taxer, ça revient sur le devant de la scène. WWF dit qu'il faut taxer davantage les SUV.
Alors si on taxait les SUV, on va taxer des SUV la plupart du temps hybrides rechargeables qui vont recevoir un bonus. Donc on va maluser le bonus. Ce qui paraît franchement très très illogique. Je crois que là, il faut quand même que certaines ONG soient sérieuses dans leurs calculs et dépassent l'idéologie pour être quand même plus réalistes.
Voilà, la défense des constructeurs français avec François Roudy. Je sens que vous allez en débattre au 32-10 dans quelques minutes. Dans le feuilleton de la guerre de l'eau, Veolia va donc boire Suez, malgré le désaccord de l'État actionnaire de référence d'Engie, qui se sépare de ses 29,9% des actions en faveur de Veolia. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, n'a pu qu'appeler ce matin les deux parties à reprendre leur discussion. Enfin, une petite peinture à l'huile de Renoir, saisie à la frontière entre l'Allemagne et la Suisse. Le tableau est estimé à plus de 120 000 euros. Le conducteur du véhicule dans lequel il a été retrouvé n'avait bien sûr rien à déclarer. La toile a été saisie car ce conducteur n'a pas pu régler l'amende de 12 000 euros. Et on retrouve Pascal Pro avec qui vous allez dialoguer dans quelques minutes.
Si vous aviez prévu de suivre le Tour de France en SUV et de manger du Nutella ou d'acheter un sapin de Noël en même temps, ça va être compliqué parce qu'effectivement, il y a des injonctions qui vont toutes dans le même sens. Donc vous ne pourrez pas faire tout ça. Mais c'est vrai que c'est un très bon sujet. On ne peut pas dire autrement. Chacun a son avis d'ailleurs. Chacun a son avis. Il y a la phrase historique de Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. Et puis il y a la situation d'aujourd'hui. Alors j'imagine ceux qui nous écoutent peuvent se dire maintenant ça tombe sur le SUV. Et où est-ce que ça s'arrête en fait? Où est-ce que ça s'arrête? C'est une bonne question.
Vous allez poser dans quelques minutes.
Bien sûr. Bon, on pourra parler, c'est la journée nationale des aidants, on pourra parler de Trump, on pourra parler du mot séparatisme qui a disparu du projet de loi. On pourra parler de la sexualité des seniors, si ça vous intéresse.
C'est à partir de quel âge, vous avez dit?
60 ans. D'accord. Vous n'êtes pas du tout concerné.
Il y en a qui sont plus proches que moi autour de cette table.
En même temps, on peut être concerné par son compagnon ou pas, forcément.
Voilà.
Cher ami.
C'est bon ?
C'est fini, là. J'attends ma place.
On peut parler de nous.
J'attends mon tour.
Il est aux ordres, pour une fois. Louis, toujours ce couvercle au-dessus de nos têtes, on ne vous remercie pas.
Pas ça favorise les rapports, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de nuages. Il y aura toujours ce couvercle sur notre tête, là, ces nuages très présents. Là, quand je vois les images satellites, il y a peu d'éclaircies. Il y en a un petit peu quand même du côté de la Bretagne, près de l'Atlantique et surtout sur la Côte d'Azur. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est vrai que les Alpes-Maritimes, notamment, resteront à l'écart de cette dégradation pluvieuse qui va donc circuler sur toutes les régions. Des pluies de plus en plus intenses dans la moitié sud, donc sauf près de la Côte d'Azur. Des averses dans la moitié nord. Tout ça poussé par un vent fort, 60-70 km/h, y compris pris dans les terres, ça donnera un peu de neige en montagne à partir de 2000 ou 2200 mètres sur les Alpes, et puis les températures, allez, ça grimpe un peu, c'est à peine sensible, hein. 14 à 16 degrés dans la moitié nord, 16 à 22 dans le sud.
Bon, et demain on reste sous la couette ou pas alors?
Ah non, demain c'est un peu mieux quand même. Demain, allez, dans beaucoup de régions, l'après-midi, on pourra se passer du parapluie. Alors, il y a quelques exceptions, sur la Bretagne où arrivera déjà une nouvelle perturbation, dans l'extrême nord-est, là aussi quelques pluies, ou encore sur les Pyrénées, mais ailleurs, on devrait donc avoir l'après-midi un temps plus sec, avec même quelques belles éclaircies, notamment près de la Méditerranée avec du Mistral et de la Tramontane, le vent restant d'ailleurs assez fort dans toutes les régions. Et puis les températures grimperont encore un peu, ça sera plus doux. 15 à 17 degrés dans la moitié nord l'après-midi, 17 à 22 dans le sud.
Bah c'est plutôt pas mal.
Ouais, c'est mieux.
Merci Louis.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Faut-il continuer de rouler en SUV, ces véhicules plus lourds, plus polluants pour l'ONG environnementale de WWF France? On aura ce débat avec Frédéric. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour Monsieur Praud.
Votre avis?
Bon, écologie punitive.
Eh bien, on continue ce débat dans une seconde, après le rappel des titres de Christelle.
Sophie Pétronin devrait retrouver la liberté dans les heures qui viennent. L'information n'est pas encore officialisée par le ministère des Affaires étrangères, mais la dernière otage française serait en cours de transfert au Mali. Cette femme de 75 ans avait été enlevée il y a près de 4 ans et elle souffre de graves problèmes de santé. Ils sont dévoués aux leurs et ne comptent ni leur temps ni leur amour. En France, on estime qu'il y a environ 10 millions d'aidants qui s'occupent d'un proche handicapé, malade ou en fin de vie. Le couple présidentiel visite en ce moment à Paris la plateforme Handicap Répit, qui leur propose un accompagnement administratif, juridique et psychologique. Emmanuel Macron vient de se faire interpeller par des soignants sur la lutte contre le Covid. Le président estime que ce n'est pas une question de moyens, mais d'organisation. Bar fermé, congrès interdit, protocole de plus en plus strict dans les restaurants. À partir d'aujourd'hui, les règles changent donc à Paris. Jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, pas plus d'un fauteuil sur deux pour les des députés et dans l'hémicycle et en commission. On part à Roland-Garros retrouver Isabelle Langer. Bonjour Isabelle.
Bonjour Christelle.
Au programme aujourd'hui, Team et Nadal.
Oui, Team et Nadal, mais alors il faudra attendre un petit peu parce qu'on rattrape le temps perdu tout d'abord avec le dernier huitième de finale féminin entre la Tunisienne Jabeur et l'Américaine Collins. Ce match devait se jouer hier sur le court Suzanne Lenglen, mais en raison de la pluie, eh bien, il a été repoussé à ce matin. Elles ont commencé à 11h, on est déjà à 1h55 de jeu. Un set partout, 5 jeux à 4 pour l'Américaine Collins. Et c'est à Jabeur de servir. Jabeur, la Tunisienne de 26 ans, qui va tenter de décrocher une nouvelle place en quart de finale, comme elle l'avait fait en janvier dernier à l'Open d'Australie. Mais je peux vous dire qu'elle est copieusement dérangée par, on va dire, la qualité sonore de Mademoiselle Collins en face. Elle n'a rien à envier à Maria Sharapova, celle-ci.
J'adore cet euphémisme.
Tout à l'heure.
Tout à l'heure, Isabelle.
Jusqu'à 14h30. Les auditeurs.